Actu SF, les podcasts.
Commençons cette table ronde. Alors, pour m'excuser par avance, c'était pas prévu que j'anime cette table ronde, mais Jean-Claude Votrayan est souffrant, et donc c'est pas lui qui l'anime, donc c'est lui qui l'avait préparé, et moi je suis un petit peu en mode joker sur cette table ronde. Donc il y a des choses que je ne sais pas des auteurs invités, et que je vais donc apprendre et découvrir en même temps que vous. Vous ne m'en voudrez pas donc de ne pas avoir de connaissances parfaites du contenu de leurs livres. Merci. Et j'espère surtout qu'eux ne m'en voudront pas, parce que vu ce qu'ils écrivent, ça serait embêtant qu'ils se mettent à m'en vouloir et à chercher à se venger d'une façon ou d'une autre. Alors, roman d'horreur ou roman de terreur, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on peut commencer par un tout petit peu définir ce qu'est pour vous l'horreur ou la terreur? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on utilise les mêmes mécanismes? Est-ce qu'on cherche les mêmes objectifs? Qu'est-ce qu'on peut commencer à en dire? On va commencer par notre auteur canadien, puisque les Canadiens sont à l'honneur cette année, et puis parce que les créatures sont à l'honneur cette année aussi. Non, ça n'a rien à voir. Patrick Sénégal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la différence entre horreur et terreur?
J'ai précisé un truc, là, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais je me considère comme un auteur québécois avant de me considérer comme un auteur canadien. Mais bon, c'est un débat complexe. Il y en a qui font signe, ouais, on a entendu parler. Mais on va pas commencer ça aujourd'hui. Mais je vais préciser une deuxième chose. Je ne veux pas être fatigant, là. Mais la couverture que vous voyez de mon livre, là, c'est pas moi, ça. Je ne sais pas c'est quelle couverture là, qui va apparaître, là, en IRIA, mais c'est un autre livre. Je ne sais pas où ça a été trouvé, cette couverture-là, mais c'est pas la mienne. Ça a l'air d'un livre qui n'est pas du tout le genre de ce que je fais, là. C'est tout mignon. Je ne sais pas si ça va revenir, mais en tout cas, c'est pas moi, OK? Bon, moi, en fait, la couverture, c'est ça. Bon. Alors, donc, ceci étant précisé, la différence entre terreur et horreur, c'est difficile parce que pour moi, l'horreur, c'est pas un genre nécessairement très précis. Au Québec, on m'appelle souvent, Patrick Sénécal, l'écrivain d'horreur du Québec, le maître de l'horreur au Québec. C'est quelque chose qui revient souvent et je commence à trouver ça un peu lourd. En même temps, je veux pas me plaindre parce que c'est quand même flatteur tout ça, mais je trouve que l'horreur, c'est plus un moyen qu'un genre. C'est plus un moyen pour dire quelque chose qu'un genre en soi. Parce que quand on entend horreur, un film d'horreur, par exemple, on va voir en général un tueur masqué qui tue plein d'adolescents en une heure et demie, le maximum. Et je trouve que c'est un peu limité comme genre. Ah oui, je fais des romans très, très noirs, très violents. Il y en a qui sont peut-être un peu plus horribles que d'autres, mais je trouve que c'est pas nécessairement tous des romans d'horreur. Alors que la terreur, ben la terreur, c'est l'émotion. Mais l'émotion n'est pas toujours suscitée par l'horreur. Elle peut être suscitée par le suspense, elle peut être suscitée par la personnalité de quelqu'un. On peut faire peur beaucoup sans utiliser l'horreur en tant que scène violente, gore, sanglante. Alors, je trouve que un roman d'horreur ne fait pas nécessairement peur. Il peut dégoûter, mais il ne va pas nécessairement faire peur. Alors que la terreur peut être suscitée par toutes sortes d'autres émotions que l'horreur elle-même. Ça va souvent ensemble, mais pas toujours nécessairement. Voilà.
Est-ce que, Anna Minette, vous avez la même définition? Est-ce que vous voyez, vous aussi, l'horreur comme quelque chose qui dégoûte, mais qui ne fait pas peur? Qui peut faire peur, mais...
Ну, я в общем и целом я согласна с предыдущим оратором из Квебека, потому что страх — это что-то, что на самом деле каждый человек испытывает несколько раз в день. Я имею в виду не ужас, а именно страх. Это нормальная физиологическая реакция защиты, и у страха есть много разных вариаций. Отвращение — это тоже, в общем-то, форма страха. Страх нужен, чтобы мы понимали, что есть какая-то опасность. Ужас...
Alors, en principe, je suis d'accord avec notre donc l'auteur québécois. Effectivement, la terreur, la peur, c'est quelque chose que la personne normale éprouve quelques fois par jour. Je ne parle vraiment pas d'une peur blanche, mais la peur comme la réaction normale, comme la réaction protectrice de l'organisme, elle intervient plusieurs fois donc dans notre vie. Effectivement, le dégoût peut être aussi une variation de la peur.
Что касается ужаса, то это уже ну, что-то и в литературе, в жанровом смысле, и в жизни, да, это что-то за гранью, это что-то, в общем, ненормальное, это что-то максимально, то есть это такой страх, но выкрученный на самый максимум, и мы это, по идее, каждый день абсолютно не испытываем, это очень сильный прием, и я не могу сказать, что я большой его поклонник, несмотря на то, что как только вышла моя первая книга, в России меня назвали немедленно королевой ужаса и русским Стивеном Кингом.
Tandis que l'horreur, en tant que donc en tant que phénomène et autant que le genre littéraire, c'est quelque chose donc d'anormal, c'est quelque chose qui dépasse les limites. C'est-à-dire donc c'est ce n'est pas ce que nous allons éprouver tous les jours. C'est quelque chose d'extraordinaire et en tant que technique, donc en tant que genre de l'horreur, je trouve que c'est quelque chose de très fort, donc à utiliser avec précaution. Et je ne peux pas dire que j'ai accours souvent, même si après la publication du premier roman, on m'a appelé la reine de l'horreur et le Stephen King russe.
Non, на самом деле, в каком-то смысле я считаю, что это даже хорошо, потому что то, что использую я, это, конечно, механизмы, способы вызвать именно страх, а не какой-то прямо ужасный ужас. И, как известно, пугает гораздо больше не окровавленный топор, а тень, например, этого топора где-то на периферии зрения, а не топор, который воткнут там в череп человека. Поэтому я топоры никогда в черепа, в общем-то, не втыкаю, я использую такой страх, который на периферии. Но я рада, что это мне удается настолько хорошо, что это пугает так, как будто это хоррор.
Et effectivement, les mécanismes que j'emploie dans mes œuvres, ce sont plus les mécanismes de la terreur, de la peur. Nous savons très bien que donc, ce n'est pas le couteau ensanglanté qui fait autant peur que l'ombre de ce couteau que nous apercevons sur le mur. Et moi, j'essaie justement d'éviter de décrire ce couteau ensanglanté plongé dans le crâne de la victime. Et de l'autre côté, je suis ravie qu'en utilisant ces mécanismes-là, j'arrive quand même donc à provoquer un sentiment d'horreur.
Rod, est-ce qu'on peut passer à votre définition pour reformuler la question ? Comment est-ce qu'on fait la différence entre horreur et terreur ?
Alors pour moi, je ne me définis pas du tout comme un auteur d'horreur. Je suis beaucoup plus dans la terreur ou dans le suspense. Je reviens sur l'idée du dégoût avec l'horreur. Pour moi, s'il n'y a pas quelques litres de sang dans le roman et quelques descriptions qui vont assez loin, je pense qu'on évite facilement l'horreur. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est la palpitation et l'augmentation du rythme cardiaque au fur et à mesure du roman. Et c'est la crainte de ce qui va arriver qui m'intéresse. Je peux reprendre l'ombre du couteau. Je pense que c'est toujours ce qui est le plus intéressant, plutôt que de dégoûter le lecteur pendant l'histoire et qu'il veuille interrompre à cause de son dégoût. Je ne prends pas beaucoup de plaisir avec l'horreur en général, même moi en tant que lecteur ou même quand je regarde des films. Je pense que le suspense fonctionne beaucoup mieux.
Oui, alors j'ai un peu complété, mais sans avoir entendu ce qu'a pu dire Patrick Sénécal. Hein, donc j'ai bien compris qu'il y avait le Stephen King russe et le Stephen King québécois. Et encore une fois,
Allez, un français.
mais si je lis aussi, c'est parce qu'il y a un jeu des étiquettes et il y a aussi des fonctionnements à partir de ça, à partir de. Enfin, moi, je trouve que Patrick Sénécal, c'est plutôt bientôt. Stephen King qui sera le Patrick Sénécal américain. mais pour dire que toutes ces sortes de dichotomies, c'est aussi créé en fonction des auteurs qui vont vraiment frapper et marquer aussi, non pas un imaginaire, mais par rapport à la réception au niveau du public. Alors, je suis tout à fait d'accord au niveau de l'horreur, il y a quelque chose qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus accessible, qui va tout de suite frapper avec des images, c'est-à-dire qu'il y a une spectacularisation qui fonctionne directement, avec des choses beaucoup plus accessibles, alors qu'il y a quand même un indicible qui fonctionne aussi au niveau de la terreur, qui fonctionne, à mon avis, de manière beaucoup plus lascive et beaucoup plus sur des questionnements beaucoup plus profonds. Si je dis ça, c'est aussi par rapport, si je prends l'exemple de tout ce que fait Patrick, il y a beaucoup plus de questions qui viennent au départ et qui arrivent très très vite. Alors, en une centaine de pages, la question principale arrive à la troisième page ou quatrième page, et c'est à partir de là où ça peut fonctionner. Donc moi, au niveau de la terreur, c'est plus quelque chose qui va passer par des questions aussi, et les questions qui enclenchent toute une suite. Alors que l'horreur, c'est beaucoup plus, ça fige directement l'impact. La dichotomie, je la vois dans ce sens-là.
D'accord. Alors, non seulement il y a potentiellement plus de subtilité dans la terreur, si je vous ai bien compris tous les quatre, mais aussi peut-être un objectif différent. Et d'après ce que j'ai compris, Patrick, vous, dans vos livres, puisque j'ai discuté avec un de vos camarades québécois en essayant de quand même un petit peu préparer la conférence, et qui me disait que dans vos livres, la chose importante, c'est qu'il y avait des éléments qui étaient des éléments du domaine du peut-être pas le social, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas du domaine du réel et de notre quotidien et de nos questionnements politiques et sociologiques. Réel.
Oui, mais je vais revenir un peu sur... vous dites qu'il y a une différence de subtilité entre la terreur et l'horreur, que la terreur serait plus subtile. Moi, je nuancerais ça un peu. Moi, je pense qu'il y a de la subtilité dans tout et qu'il peut avoir du mauvais goût dans tout. Dans le sens que il y a des scènes dans mes romans qui sont vraiment horribles, qui sont vraiment gore. Je vais pas cacher ça, là. Il y a des scènes extrêmement sanglantes. Mais pour moi, ces scènes-là, elles ont un but autre que uniquement dégoûter. Souvent, c'est une brisure. Le personnage atteint un moment où je veux que le lecteur comprenne qu'il a basculé dans quelque chose. Et souvent, l'horreur que mon personnage va poser, le geste horrible qu'il va poser, lui-même va être complètement horrifié par ce qu'il est en train de faire. Alors, pour moi, ça, c'est important. Et de toute façon, les scènes d'horreur, les scènes de gore, les gens me disent souvent « Ah, votre scène est épouvantable, est horrible, ça m'a tellement traumatisé. » Mais elles peuvent toujours être plus horribles. C'est toujours, et c'est là que ça devient facile. On peut toujours mettre plus de sang, plus de tripes, plus de giclage, d'œil crevé. Bon, on peut toujours en rajouter encore et encore. Ce qu'il faut trouver, c'est jusqu'où que ça... qu'on peut aller sans que ça devienne grand guignol ou que ça devienne grotesque. Alors là, c'est subjectif, évidemment. Mais je peux utiliser ces trucs-là, là, ces moyens-là. Mais il faut qu'ils veulent dire quelque chose. Alors, on peut être horrible et être subtil, même si c'est très sanglant. Et la terreur, oui, la terreur, évidemment, c'est plus subtil dans l'effet que ça fait. Mais en même temps, on a tous vu des films de terreur qui utilisent des moyens tellement clichés que ça en est ridicule. Alors, c'est, dans les deux cas, je pense qu'il y a de la subtilité et de la facilité. Mais oui, l'horreur peut servir effectivement à poser des questions sociales, peut servir à poser à parler du quotidien, à la littérature noire. En fait, moi, je considère que je fais de la littérature noire, ben, c'est un reflet, en fait. Alors, c'est un reflet où l'auteur a décidé... consciemment de mettre le pire reflet de l'humanité. Alors, les gens me demandent souvent, mais pourquoi le pire? Ben, je ne sais pas, parce que ça fait des meilleures histoires, ça fait des histoires plus intéressantes. Je pense que l'humain peut faire le meilleur aussi, mais le meilleur n'est pas tellement intéressant à raconter, alors que le pire fait des histoires. Et puis, il y a une forme de catharsis là-dedans, je pense, pour toutes les pour ceux qui le lisent et pour ceux qui l'écrivent.
On apprend, à force de fréquenter des auteurs de l'imaginaire, on apprend que, bien entendu, l'horreur, c'est pas vous. Hein, c'est ce que m'ont dit les autrices ce matin d'une table ronde sur l'horreur dans les romans, c'est pas moi.
Voilà, attention, c'est en nous quand même.
C'est ce qu'on en a conclu aussi.
On peut pas écrire autre chose que ce qui est en nous non plus.
Mais il n'y a pas en vous de psychopathe qui égorge les gens le matin au petit déjeuner.
Non.
Bon. on est rassuré. En revanche, est-ce que les questionnements que tout cela produit, les questionnements sur nous-mêmes, les questionnements sur nos propres capacités à être horribles, est-ce que ça vous intéresse aussi? Est-ce que finalement, l'horreur, on en est tous témoins au quotidien? Il y a des choses horribles qui se passent pour de vrai au quotidien sans qu'on ait besoin de lire vos romans. Alors, est-ce que vous cherchez à nous faire réfléchir sur cette part d'horreur en nous?
Je pense que la terreur ou l'horreur, ça permet de révéler en fait un personnage rapidement. C'est-à-dire que par rapport à une scène horrible ou à quelque chose qui n'est pas du tout naturel, d'un seul coup, un personnage qu'on ne pouvait pas imaginer devient soudainement un héros, et un autre qui était super fort devient soudain une victime et n'arrive pas du tout à encaisser le coup. Ce qui est intéressant, c'est l'effet que ça produit sur la suite, la façon dont un personnage peut se construire ou se détruire par rapport au traumatisme qu'il vient de vivre. Je pense que c'est l'élément le plus intéressant en fait à aborder dans ce genre d'histoire.
Oui, ce même type de questionnement, c'est pour ça que ça rejoint au niveau de l'horreur et de la terreur. C'est-à-dire que l'horreur, c'est aussi, s'il y a cette fascination, ou en tout cas cette sidération, c'est quand même une violence qui est comme sans cause, quoi. Enfin, l'horreur moderne, c'est ça aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin obligatoirement de tout ce qui va être substrat religieux pour voir que c'est la société aussi qui provoque ça. Et on se contente aussi des images. Mais c'est des images aussi, c'est pour ça que je suis d'accord avec Patrick Sénécal, pour dire que je ne fais pas aussi de différence qualitative. Il peut y avoir des très bons romans d'horreur qui, en même temps, vont montrer cette violence. Donc, même cette violence, si elle paraît gratuite, ça veut aussi dire quelque chose. Et pour revenir même sur le... horreur et terreur, ça c'est aussi le gothique urbain, le gothique contemporain, et tout ce qui était le roman gothique qui reflétait quand même aussi la crise au niveau de la religion, s'inspirer ou en tout cas le creuser, c'était quand même le sublime, tout ce qui était le sublime de Burke, et le sublime de Burke c'est l'horreur, hein. C'est l'horreur délicieuse, l'horreur qui est proche aussi. Donc ça veut dire que effectivement les scènes d'horreur peuvent aussi servir à avoir ce questionnement ou à enrichir ce questionnement. Après, la différence aussi, c'est qu'il y a des questions, encore une fois, et ces questions vont jouer à chaque fois sur des principes de littéralisation. C'est-à-dire que ça littéralise, pour moi, même la terreur et le fantastique, c'est ça, quoi. C'est ce qui est inconceptualisable, qu'on ne peut pas, on n'a pas des traités de philosophie, mais ce qui est inconceptualisable, ce qu'on n'arrive pas à définir, eh bien, c'est rendu par des artefacts fantastiques, et donc ça fait réfléchir. Donc le principe de littéralisation, le double, c'est un principe de littéralisation. C'est-à-dire qu'on peut en faire des traités, mais on peut aussi lire et comprendre aussi pourquoi ça fait peur et pourquoi il y a aussi un double en nous. Donc c'est ça qui fait, je pense, aussi qui anime et qui justifie aussi qu'il y ait 2 siècles et demi de terreur aussi à partir de ça, à partir de tout ce qu'on n'arrive pas à définir. Et on n'est pas là non plus pour ça, mais on est là aussi pour dire qu'on lit des romans qui nous font peur et pourquoi on en a peur.
Les grincements de portes. Anna, est-ce que vous aussi, le quotidien, vos romans que tout le monde, j'espère, connaît mieux que moi, en tout cas, est-ce que le fait de mêler du traditionnel russe, qui est pas très bien connu en dehors des auteurs russes et des lecteurs russes, je pense que c'est vraiment une culture qu'on aborde plus difficilement ici que la culture américaine qui nous submerge. Est-ce que c'est un moyen pour vous de faire part de votre culture et d'y intéresser quelque chose de plus universel? C'est-à-dire qu'on est tous sur des peurs identiques, qu'on soit dans les forêts québécoises ou dans les forêts de la steppe russe. Est-ce que ce sont les mêmes ressorts qui nous font peur?
Ну, нет, у меня нет такой миссии как-то нести в мир какие-то, доносить до всего мира культурные коды именно из российской литературы, хотя, я думаю, просто случайно, как побочный эффект, это, естественно, происходит, поскольку я выросла в этой культуре. Но, тем не менее, я современный человек, как бы мир сейчас, к счастью, пока еще абсолютно открытый, и, естественно, я говорю о страхах, которые понятны всем.
Alors non, ma mission n'était pas de transmettre au monde les codes culturels russes, même si je crois que c'est quelque chose qui, de toute façon, se produit en tant qu'effet secondaire, parce que ce sont les codes dans lesquels donc j'ai grandi, dans lesquels j'écris. Mais effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne qui est, pour l'instant au moins, ouvert, et donc j'écris les peurs tout à fait universelles.
Ну и при этом напугать, то есть вызвать страх читателя, это не конечная моя цель, а это просто средство для того, чтобы действительно показать какие-то абсолютно реалистичные вещи. То есть меня, несмотря на то, что я пишу фантастику, меня волнует, конечно же, реальность. И, например, если я пишу рассказ, да, то в этом рассказе вообще редко бывает больше одного фантастического допущения.
Et de toute façon, faire peur au lecteur n'a jamais été mon objectif final. À travers cette peur, j'essaie justement de montrer des choses bien réelles, parce que même si j'écris de la fantastique, je suis préoccupée par la réalité. Et par exemple, dans mes nouvelles, vous trouvez rarement plus d'un élément fantastique par nouvelle.
И по большей части страх меня интересует как способ показать. Мы боимся больше всего, на самом деле, изменений непредсказуемых, над которыми мы не властны, которые мы не контролируем. То есть страх я использую как прием, с помощью которого я показываю хрупкость и зыбкость того, что нас окружает, там, возможность изменений в близких людях, над которыми мы не властны, возможность изменений в собственном организме, возможность смерти, в конце концов, потому что эта проблема пока совершенно не решена.
Et pour moi, la terreur, c'est le mécanisme qui me permet de montrer, au fait, si, quand on y pense, on a le plus peur des changements irréversibles sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Et donc, pour moi, justement, cette peur, c'est le mécanisme qui sert à montrer la fragilité de notre existence où rien n'est stable, parce que vous pouvez avoir des transformations chez vos proches sur lesquelles vous n'aurez pas de contrôle, des transformations dans votre propre organisme, la mort finalement. Il y a plein de choses dont nous n'avons pas le contrôle, et donc c'est ça que j'essaie de montrer.
Ну и меня очень интересует, конечно, тема как бы тех метаморфоз, которые могут произойти с нашим сознанием, с нашим мозгом и с нашим восприятием. И тут мне и помогает фантастическое допущение. То есть, грубо говоря, многие люди, да, имеют какие-то навязчивости. Многие дети боятся наступать, например, на трещины в асфальте или на промежутки между плитками. Я делаю, например, в рассказе допущение, что а вдруг, если ты наступил на такой вот промежуток, то действительно случится что-то страшное. Вот, и, ну, просто, то есть, в общем, я могу только повторить, что я, когда я вношу вот этот фантастический страх в рассказ, это обычно для того, чтобы дальше рассказать про то, что происходит в нашем мозгу и в мире вокруг нас на самом деле.
Et ce qui m'intéresse en particulier, ce sont les transformations que nous pouvons avoir dans notre conscience, dans notre cerveau, ces transformations intérieures. Et c'est là que je suis aidée par l'élément fantastique, parce qu'on sait que qu'on peut avoir des idées qui reviennent tout le temps, des peurs qui n'auraient pas de sens. Par exemple, les enfants ont souvent peur de marcher sur les craquelures dans l'asphalte. Et donc j'essaie à l'aide de l'élément fantastique, j'essaie de m'imaginer ce qui se produirait si effectivement marcher sur une claquelure vous apportait de mauvaises choses. Et donc, encore une fois, ce qui m'intéresse, ce sont les transformations dans notre cerveau et les transformations dans nos perceptions du monde et dans le monde lui-même.
Patrick va répondre en écho tout de suite à ce que vient de dire Anna.
Oui, je vais rebondir là-dessus parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans l'idée de ce qui fait peur, c'est la perte de contrôle, en fait. C'est qu'on ne contrôle pas les choses. Et moi, personnellement, j'embarque dans cette idée-là à 100% parce que c'est le thème d'à peu près tous mes livres, finalement, même inconsciemment. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas grand-chose, finalement, mais on veut se donner l'illusion qu'on contrôle les choses dans nos vies. Et ce qui fait le plus peur, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est quand on se rend compte qu'on ne contrôle pas grand-chose, finalement. Et mes personnages, souvent, se rendent compte que non seulement ils ne contrôlent pas les événements autour d'eux, mais ils ne contrôlent pas leurs propres réactions. Alors, dans presque tous mes romans, le personnage principal découvre qu'il peut y avoir un monstre en lui qui va surgir à cause d'un événement qu'il ne contrôlait pas et qui lui-même ne contrôlera pas soudainement sa réaction. Et moi, je trouve qu'effectivement, ce qui est le plus terrifiant, c'est ça. C'est le constat qu'on ne contrôle pas les choses autant qu'on pense.
Donc finalement, vous êtes un peu des contrôle freaks. Vous avez peur de perdre le contrôle.
Juste parce que je reviendrai sur les craquelures dans l'asphalte. Oui. Ça, pour moi, ça définit parfaitement aussi ce que c'est que la terreur. Quoi.
Oui.
Pour un enfant, l'asphalte, c'est plat, c'est lisse, il n'y a rien.
Oui. Et, il faut et, pas, et la peur irrationnelle de la craquelure, elle est intéressante.
Rationaliser sur ce sur quoi un enfant marche. Quoi. Et la craquelure, c'est aussi ça, la terreur, quoi, et le fantastique. Ça, pour moi, c'est une métaphore aussi de tout ce qui peut être écrit à partir de ça.
D'ailleurs, immédiatement, dans le public, quelqu'un a essayé de ne pas marcher sur les rainures. Ça va être difficile, hein, là, c'est du bois. Rod, est-ce que vous aussi, la perte de contrôle, on en discutait un petit peu avant sur l'idée que alors, je vais aborder un autre sujet pour vous, en tant qu'auteur. Est-ce que vous faites peur? C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai du mal à lire des romans qui font peur parce qu'il y a un moment où je ne supporte plus, ça m'angoisse trop, ça palpite trop, comme disait Rod. Et est-ce que vous, en écrivant, vous faites peur?
Moi, je me fais en permanence peur. C'est-à-dire que quand j'écris seul sur les scènes les plus dures, des fois, je me rends compte, je me retourne juste pour m'assurer que je suis tout seul dans la pièce et qu'il n'y a personne qui va venir m'attaquer. Donc oui, pour moi, si j'écris des romans de terreur ou de suspense, c'est parce que en général, je pense que je suis un gros flippé dans la vie. Et ça me permet d'extraire certaines peurs pour laisser de la place aux prochaines, en fait.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas penser que quand on admet soi-même qu'on est quelqu'un d'un peu flippé dans la vie, on écrirait des trucs pour se faire aller mieux, quoi, des trucs un peu roses, bleus,
oui,
des choses un peu légères.
Justement, c'est comme la montée d'adrénaline. Il y a cette montée et une fois qu'elle est passée, on se sent tout de suite mieux. Il y a quelque chose qui fait, une fois que c'est sorti, on est relax.
Et voilà, c'est ça, je suis assez d'accord aussi. Puis écrire sur nos peurs, ben, encore là, je ne vais pas me répéter, mais c'est une façon de se donner l'illusion qu'on les contrôle, nos peurs. On se dit, ben, au moins, pendant que je les écris, c'est moi qui ai le dessus sur elles, parce qu'après tout, c'est moi l'écrivain, c'est moi qui décide. Et évidemment, ce qui arrive à nos personnages est pire que ce qui peut nous arriver à nous. Alors, ça rassure aussi. Ça dit, ben, il ne m'arrivera jamais aussi pire que ça. Donc, non, si j'écris des choses joyeuses et tout ça, j'ai avoir l'impression que je me mens à moi-même. Je disais, mais non, j'y crois pas, c'est pas vrai. Ça va beaucoup plus mal que ça. Et une fois que c'est terminé, effectivement, l'effet de catharsis est passé. Et moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'écrivains d'horreur, de thriller, de suspense, de romans policiers. Une très grande partie de ceux que j'ai rencontrés, c'est des gens très rigolos, c'est des gens qui aiment beaucoup avoir du plaisir, puis qui joyeux, ils aiment prendre un verre, puis avoir du fun, comme on dit chez nous. Parce que justement, le pire, ils l'ont mis dans leur livre. Et après ça, alors que les écrivains mainstream, les écrivains de romans littéraires, souvent sont très sombres, ils se prennent très au sérieux, sont dans la souffrance tout le temps. Alors nous, on met ça dans nos livres, et après ça, ben, on fait la fête.
Anna, est-ce que vous faites la fête?
Да, но я, во-первых, считаю, что на самом деле у каждого человека есть свой подвал с демонами.
Alors, premièrement, je crois que chaque personne a son propre sous-sol à démons. Ici, on dirait plus un armoire à squelettes.
Ну, просто не каждый человек ходит в этот подвал, и не каждый человек имеет такие достаточно тонкие настройки, как, ну вот мы тут Стивен и Кинги разных стран. Просто если оттуда из двух подвалов к тебе вот прям уже стучат, там долбят и скребутся когтями, то есть два пути. Либо пытаться сделать вид, что этого подвала не существует, и писать там о любви, о ромашках. Вот, либо все-таки спуститься в подвал, как-то действительно это все пронаблюдать и действительно получить над этим хоть какой-то контроль, а потом это описать.
Et le fait, c'est que tout le monde n'ira pas voir dans ce sous-sol et tout le monde n'aura pas non plus des perceptions aussi fines qu'on peut dire, enfin que nous, les Stephen King de différents pays, parce que vous pouvez, enfin il y a deux manières donc d'agir avec ce sous-sol, surtout quand vous entendez des sons de là-bas, des bruits, des grincements, quand on commence à gratter à l'intérieur. Soit vous faites l'air que ce sous-sol n'existe pas et vous commencez effectivement à écrire sur l'amour, sur les roses, etc. etc. Soit vous descendez, vous essayez de voir ce qui se passe, effectivement d'avoir au moins le contrôle sur ce sous-sol et de décrire ce qui se passe dedans.
И да, меня регулярно, то есть когда меня видят, например, вот в России я тоже прихожу на какой-нибудь такой круглый стол, то обычно люди удивляются и говорят, ой, а вы такая милая же на самом деле, а мы думали, что вы совершенно сумасшедшая или какой-то монстр. То есть да, безусловно, я на самом деле вполне, ну, в своем уме там адекватна, и то, о чем я пишу, это не я, это такой на самом деле подвал, в который можно спуститься, а можно нет, я спускаюсь, мне интересно. Но я не житель этого подвала.
Et effectivement, donc en Russie, aux plusieurs tables rondes où je paraissais, les gens étaient étonnés de me voir. Ils me disaient, mais vous êtes tellement mignonne. Nous, on s'attendait à voir une femme folle, on s'attendait à voir un monstre. Et effectivement, donc, si j'écris ces romans, ce n'est pas moi, les horreurs, ce n'est pas moi. C'est quelque chose qui vit dans le sous-sol et que je vais voir parce que ça m'intéresse. Mais dans le sous-sol, moi, je n'y vis pas.
Rod, vous avez un sous-sol mal famé aussi ?
Oui, ou un placard. Moi, je trouve que le placard, c'est plutôt pas mal. Mais oui, moi, en permanence, de toute façon, c'est quand il y a une pièce qui est illuminée et où il y a juste un coin sombre, c'est le coin sombre qui va m'intéresser. C'est ce qui est caché et ce qu'on ne voit pas. C'est le mystère, l'inconnu qui me fait peur. Et c'est ça que j'essaye d'aborder.
Est-ce que, pour rentrer un petit peu plus peut-être dans le contenu de vos ouvrages, est-ce que l'horreur, c'est un passage obligé ou en tout cas une étape un peu obligatoire pour faire avancer les personnages ? On a dit tout à l'heure que les gens heureux n'avaient pas d'histoire, hein, en grosso modo, que ce n'était pas très intéressant de parler du bonheur, mais en tout cas d'écrire tout un roman dessus. Mais est-ce que je le disais ce matin avec les autrices qui étaient ces autrices tellement un peu comme Anna, tellement douce d'apparence et qui écrivait des horreurs. est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand même vos personnages peuvent se dire, on a l'habitude de dire ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Moi, je préfère what doesn't kill you makes you wish you were dead. Ce qui ne vous tue pas vous donne envie d'être mort. En fait, est-ce que par moment, ce que vous faites subir à vos personnages, c'est pas un peu trop ? Est-ce qu'ils y survivent ? Est-ce qu'ils s'en sortent grandis ? Voilà. J'ai fait plein de questions en une seule.
Moi, en général, ça va très mal pour mes personnages. C'est... il n'y a pas beaucoup de rédemption. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas vraiment de happy end dans mes personnages, dans mes romans. C'est pas parce que j'aime pas les happy ends. Je veux dire, je suis capable de... Ça dépend le contrat que tu as avec le lecteur ou avec le spectateur quand c'est un film. C'est-à-dire que mes romans, avec la courbe qu'ils prennent, souvent, en fait, moi, c'est pas une courbe, c'est une descente. Et... Il faut être cohérent avec son histoire. Je veux dire, si à la fin, tout à coup, il y a une remontée de façon magique et arrangée avec le gars des vues pour dire « Ah, ben finalement, il va bien s'en sortir, rassurez-vous, amis lecteurs », ben j'y crois pas, je me sens trahi comme lecteur. Ben c'est ça, ce n'était qu'un rêve, exactement. Alors, c'est pas que je veux absolument que ça aille mal, mais je veux être cohérent avec l'histoire que je suis en train de raconter. Ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont mourir non plus, mais t'as pas besoin de mourir pour que ça aille très mal. Il y en a, ceci dit, qui vont s'en sortir d'une certaine manière, mais avec des blessures profondes. La fin de Les 7 jours du Talion, mon roman, par exemple, je pense qu'à la fin, il prend la bonne décision, mais il y a un prix à payer pour ça. Hell.com, c'est la même chose. Il y a une forme de rédemption, mais au prix de quelque chose de terrible aussi. Alors, c'est pas qu'il faut absolument que ça aille mal, c'est pas que je veux absolument qu'il meure ou qu'il souffre ou qu'il s'en sorte pas, c'est que je veux être cohérent avec l'histoire que je suis en train de raconter. Alors, dépendamment de où est-ce qu'ils sont rendus dans leur descente, ben ça va avoir un effet plus ou moins malsain sur eux. Mais rarement, c'est « Ah, j'ai souffert, donc j'ai compris quelque chose et ça va aller mieux après. » Non, en général, les souffrances qui leur arrivent, ils les ont causées eux-mêmes, en plus. Alors, souvent, moi, le bon et le méchant sont souvent dans le même personnage, en fait.
Arnaud, vous vouliez réagir sur cette idée de le héros doit, ou le protagoniste doit passer à travers des choses horribles pour avancer ?
C'est vrai que c'est un contrat lecture. Enfin, c'est toute la différence entre des écrivains comme Barker et puis Kuntz. Kuntz, le contrat de lecture, c'est dire que finalement, tout se passe bien à la fin. C'est une rédemption. Une rédemption qui amène aussi une certaine vision des États-Unis où il y a le couple, etc. Et ça, c'est un contrat de lecture. Et en même temps, c'est se poser la question de ce qui reste de Kuntz et ce qui reste de Barker. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment Kuntz qui reste. Mais donc, c'est des contrats de lecture. Enfin, c'est... effectivement, la plupart des écrivains intéressants, il y a cette rédemption et puis cette descente aussi qui me paraît plus intéressante, quoi. Si c'est vraiment d'avoir une descente qui peut être vertigineuse, c'est quand même de détruire une grande partie de ce qui est autour. Et si c'est pour après reconstruire la société telle qu'on l'idéalise, ça perd aussi un peu de pouvoir, en tout cas, de montrer ce qui ne fonctionne pas.
Rod ?
Moi, personnellement, je tente toujours de rester dans une espèce de zone grise. Ah. C'est-à-dire que ça ne finit jamais bien, ça ne finit jamais mal. On est toujours dans un espèce d'entre-deux où on a pu apprendre des choses, mais où on en a perdu d'autres. Et où les personnages ne sont jamais dans le bonheur absolu à la fin. Ensuite, en général, dans mes romans, j'ai toujours plusieurs personnages. Donc, j'essaye d'en tuer 50% et d'en garder 50%.
Anna, vous en faites quoi de vos personnages?
Ну, моим персонажам тоже, то есть, к сожалению, они все заранее обречены, потому что если они уже попали в мои тексты, то это для них такая форма мясорубки, и хорошо им уже точно не будет.
Alors, malheureusement, mes personnages sont condamnés d'avance parce que déjà le fait de s'être retrouvé dans mes textes, ça ne leur promet rien de bon.
Но я действительно согласна, что вот эта американская история, условно говоря, успеха, которая распространяется и на жанр как бы хоррора тоже, где человек проходит через все круги ада, но вдруг от этого почему-то, значит, теряет там всех жен, детей, я не знаю, котов, а потом почему-то побеждает, становится счастливым человеком, и, значит, это делает его сильнее. Это, конечно, абсолютно вне, ну, как бы это очень условные какие-то события. В реальности то, что нас почти убивает, не делает нас сильнее, а делает нас значительно гораздо несчастнее и слабее. И, в общем, это еще одно подтверждение, что мы пишем скорее что-то о жизни, чем что-то фантастическое.
Mais je suis effectivement d'accord avec cette opinion que cette success story américaine, effectivement, elle nous offre cette lecture des romans d'horreur où la personne passe à travers de tous les cercles de l'enfer et elle y perd sa famille, ses enfants, son chat. Et puis tout d'un coup, donc elle ressort de cet enfer plus forte.
Pas les chats.
Donc elle en ressort plus forte qu'avant et elle peut vivre dans le bonheur. Ça, enfin, vous voyez bien que c'est une lecture très simpliste. En effet, si les choses qui ne nous tuent pas, ils ne nous rendent pas plus forts, ils nous rendent beaucoup plus faibles et beaucoup plus malheureux. Et donc, et c'est ça qui confirme aussi qu'on écrit beaucoup plus le réel que le fantastique.
Oui, juste parce que vous avez bien compris que moi, je n'écris pas mes peurs. Hein, donc, je parle des peurs des autres, hein, mais ça ne m'empêche pas de faire la fête. Hein. Mais il y a aussi, hein, donc, si je parle aussi même de genre, hein, qui est un modèle aussi pour certains, il y a aussi une autre manière d'écrire, c'est que finalement, les personnages sont déjà morts avant même que ça commence. C'est-à-dire qu'il y a une certaine vision de la société, de montrer que la répétition, toute la petite bourgeoisie, pas d'essence, pas de perception, de simplement avoir une quotidienneté qui est une quotidienneté aliénante et qui finalement va montrer que l'événement fantastique que l'on peut appeler comme ça ou autrement, c'est une réduplication pure et simple, avec des éléments d'effroi, mais qui en fait montrent que le personnage est déjà condamné parce qu'il ne voit pas au-delà de ce qui l'enferme.
Est-ce que ce n'est pas une vision qui tend à dire que l'humain n'apprend pas, qu'on ne s'améliore pas en tant que groupe, j'entends, hein, en tant que...
Je ne sais pas si l'humain apprend ou non, il faudrait laisser les historiens répondre à ça, mais en fait, si ça va mal pour mes personnages dans mes romans, c'est pas pour les punir, c'est pas parce que je veux montrer ça vous apprendra pour faire telle chose, sinon là on devient moralisateur et ça m'intéresse pas du tout. Au contraire, je veux montrer que en général ils ont rien fait pour mériter ça là. C'est souvent profondément injuste. C'est justement ils contrôlent pas parce que la vie est absurde de toute façon. Alors et moi je trouve que de reconnaître que la vie est absurde et d'y faire face, je trouve que c'est déjà une façon de l'apprivoiser et de, et d'être moins déçu, finalement. Je pense qu'il faut reconnaître que la vie est absurde. Moi, je suis très camusien là-dessus. Oui, la vie est absurde, et pourquoi pas? Et une fois qu'on le sait, on va arrêter de lutter, on va arrêter de dire « Ah, ce qui nous arrive, c'est parce qu'on l'a mérité. » Bon, on va arrêter de dire ces conneries-là, et on va accepter que, finalement, oui, il y a des choses absurdes qui peuvent arriver. Il faut, au Québec, on dirait « dealer » avec ça, qu'il faut y faire face, et moi, je trouve que c'est beaucoup moins éreintant, beaucoup moins essoufflant et décevant d'accepter que la vie est absurde, plutôt que de lutter contre cette idée-là et de dire « mais non, la vie a un sens après tout. C'est nous qui donnons le sens qu'on veut à la vie. C'est pas la vie elle-même. » Alors non, je ne veux pas montrer que mes personnages ils apprennent rien, donc il faut les punir. C'est pas ça. C'est juste qu'ils sont malchanceux et dans certaines situations, leur humanité ou leur anti-humanité a surgi parce qu'ils ont fait face à quelque chose qui, tout à coup, a fait surgir d'eux quelque chose qu'ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient exister. Et je pense que tout le monde ici pourrait faire face à une situation qui ferait surgir en eux des choses qu'ils ne soupçonnent même pas. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas gentils, ce n'est pas parce qu'ils le méritent, c'est parce que vous dites non, vous n'y croyez pas, vous, non? Ah bon, alors, vous êtes d'accord qu'ils ne pressent pas. Oui, mais ce n'est pas une question de courage, c'est une question d'une pulsion qui nous habite tout à coup et je crois que 95% des gens dans le monde n'auront jamais à faire face à ce monstre intérieur-là parce qu'il ne nous arrivera pas des trucs assez forts pour que ça surgisse. Mais je pense que c'est possible. Je pense que personne n'est à l'abri de ça. Et moi, dans mes histoires, c'est ça qui m'intéresse. Et pas pour les punir, pour montrer que tout à coup, c'était plus fort qu'eux, quelque chose est arrivé.
Et c'est pour ça qu'on lit aussi ces histoires-là.
Anna, vous voulez réagir?
Да, я вот абсолютно согласна. Именно в этом и заключается суть, что это все истории, ну, которые там я пишу, которые мы пишем, это не истории о том, что кто-то был неправ, и поэтому там его захватила какая-то демоническая сущность. Это действительно история о том, что нету никаких, и это самое страшное, что нет никаких причинно-следственных связей и нет логики, хотя мы очень хотим увидеть логику в мироздании и считать, что связь есть, но логики в этом нет, как нет ее в том, что какого-то персонажа захватила какая-то демоническая сущность, так и в том, что какого-то человека, не знаю, в реальности, например, настиг рак. В этом нету, это страшно, да, но это не потому, что ты плохой, а действительно, вот, как и было сказано, это потому, что тебе просто не повезло. И на самом деле это важная такая штука, она нас психотерапевтична, ее хорошо признать.
Alors, je voulais juste dire que je suis à 100% d'accord. Effectivement, les choses que nous écrivons et ce qui fait peut-être le plus peur dans ces choses-là, c'est le fait que toutes ces horreurs n'ont pas de logique. C'est-à-dire que les choses, enfin les mauvaises choses qu'on vit, que ce soit des choses fantastiques, les démons par exemple, ou que ce soit le cancer, ce n'est pas parce qu'on l'a mérité. On ne le vit pas parce qu'on le méritait. Les romans ne sont pas sur une personne qui s'est mal conduite et pour cela avait été prise par les démons, mais justement c'est sur l'absence de la cause et conséquence, c'est sur l'absence de la cohérence dans les choses qui se passent, et effectivement c'est important, c'est psychothérapeutique de savoir que si cela arrive, ce n'est pas effectivement à cause d'une certaine logique que nous on aurait bien voulu trouver dans notre existence, mais c'est justement parce qu'on n'a pas eu de chance.
Rod, vous pensez aussi que les choses sont un peu prédestinées?
Alors, prédestinées, non. Non, pas prédestinées. Moi, de toute façon...
Je suis là pour vous provoquer.
dans mes romans, concrètement, c'est toujours quand même... L'horreur arrive parce que c'est une répercussion de l'action d'un des personnages. Hein. Ça n'arrive pas au hasard. Ça joue toujours sur quelque chose qu'il voulait, qu'il ne pouvait pas avoir.
Donc un peu, il mérite quand même, du coup.
Il mérite oui et non, parce que généralement c'est toujours quelque chose pour faire le bien, hein, ou quelque chose de bon, et malheureusement il y a toujours un prix à payer auquel il ne se doutait pas. Ensuite, ce que je trouve ce qui est intéressant dans les romans de terreur ou de fantastique au niveau des personnages, c'est la lutte intérieure des personnages justement pour accepter en fait ce qui vient d'arriver, pour accepter que n'importe quelle scène d'horreur ou de fantastique qui s'est produite devant leurs yeux, ils parviennent à y croire, parce que j'ai beaucoup de personnages. Donc c'est un monde complètement réaliste dans lequel intervient quelque chose de fantastique. Et même en l'ayant vu, ils ne veulent pas le croire. Et ils ont besoin que ça se reproduise encore et encore avant de se convaincre qu'ils ne sont pas totalement fous et qu'il faut agir pour résoudre les choses.
pardon, est-ce que ça, c'est pas un trait très qui existe dans la société de façon très réaliste, ce déni sur, par rapport à certaines réalités économiques, d'injustice, de choses néfastes qui se passent? Est-ce que parfois on n'est pas tous un peu dans ce déni?
Juste avant, je précise aussi que moi, ce que je dis, ce qu'on dit tous ici, évidemment, c'est notre perception à nous, c'est comment on écrit nos trucs à nous. Ça ne veut pas dire que il y a d'autres auteurs qui font d'autres choses et que ça peut être très valable aussi. Là, par exemple, si je prends, c'est depuis tantôt que je dis que moi, mes personnages qu'ils font, ils ne le méritent pas, et bon, c'est ce qui m'intéresse, moi, dans mon écriture. Mais je pense à une série, par exemple, comme Breaking Bad, que vous connaissez tous ici aussi, j'imagine, la série Breaking Bad, et que c'est, bon, en Europe aussi, j'imagine que ça marchait fort. Ben, pour moi, c'est une excellente série, mais tout ce qui lui arrive, il l'a bien voulu. Hein? Je veux dire, dès le premier épisode, il a pris la plus mauvaise décision de sa vie. Il dit, je vais vendre du cristal maître, je vais en faire et je vais le vendre. Et comme spectateur, tu dis, oh mon Dieu, quelle mauvaise idée. Tu vas vraiment te mettre dans la merde jusqu'au cou. Et c'est ça le contrat avec le spectateur, d'ailleurs. C'est voulu, c'est le premier clin d'œil de la série, c'est, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais il le fait quand même pour le bien. Son intention, c'est de faire quelque chose pour aider sa famille. Bon, finalement, il va devenir très dark, très sombre, et il va devenir un méchant, et c'est ça qui est intéressant. Mais au départ, c'est sa décision qu'il met dans... Mais ça marche, ça fonctionne, parce qu'on joue avec ce code-là, donc ça dépend. Là. On peut pas, évidemment, je suis pas en train de dire que les seuls bons romans, c'est quand tu le mérites pas. C'est pas ça. C'est moi ce qui m'intéresse dans ce que je fais. Mais maintenant, par rapport à ce que vous demandez, le déni, ben oui, moi je pense que la plupart des gens sont dans le déni. C'est une façon de survivre, en fait. Le déni peut devenir un moyen de survivre. Plutôt que d'assumer telle ou telle chose, on aime mieux se dire, mais non, c'est pas possible. Je pense que les gens qui sont le plus dans le déni, c'est les gens qui disent, et j'en vois souvent sur Facebook, là, j'ai des amis Facebook parfois qui disent ça, j'en ai pas beaucoup, heureusement, qui disent ce genre de trucs, mais qui disent, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui, rien n'arrive pour rien, hein? mon ange gardien m'a bien, c'est parce que je le mérite. Et avant, je leur répondais, maintenant je ne leur réponds plus parce que ça faisait des engueulades terribles, mais je leur répondais, et en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé, il le méritait peut-être, ou tel endroit. Alors moi, c'est cette espèce de pensée magique-là, mais oui, c'est une forme de déni, et je pense que c'est parce qu'affronter la réalité, ben, ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. Ou peut-être aussi, soyons un peu plus humanistes, peut-être qu'ils ont vécu des choses terribles avant dans le passé, tellement terribles que leur seul moyen de survie, c'est de... Comme des gens qui deviennent très, très religieux parfois, c'est aussi pour ça. Ils ont vécu des choses terribles et leur seule porte de sortie, c'est la religion. Il y en a pour qui c'est d'accepter l'absurde, comme moi je dis, mais il y en a que non, c'est pas possible d'accepter l'absurde. Alors, ils trouvent une réponse ailleurs. Ouais.
Je voudrais juste rebondir. Je pense que de toute façon, quand on écrit ce genre de roman, on part de toute façon toujours sur le « et si ». C'est comme quand on est enfant et qu'on nous dit « les monstres n'existent pas ». Et bien sûr, il y a le « et si ». Et s'ils existaient vraiment, les monstres, qu'est-ce qui se passerait? Et je pense que ça vient un peu de là, en fait, tous nos romans. Et si les fantômes existaient? Et si un serial killer arrivait comme ça et tuait tout le monde? On nous répète en permanence que ce n'est pas possible, qu'on vit en société. Et si?
Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne le connaîtrez pas, mais il y a une façon humoristique de dire « Et si la chauve-souris venait me mordre dans le cou jusque chez moi ?» Il y a un sketch fameux sur « Et si ?» On peut le traiter de façon drôle, mais vous avez choisi de le traiter de façon « Et si le pire arrivait ?» Quand même un peu.
Enfin, non, juste, c'est vrai qu'il y a un déni. Quoi. Enfin, tout système totalisant, c'est fait pour justement refuser ce qui va être un questionnement aussi profond. Moi, ce que je trouve plus effrayant que la peur, c'est parce que système totalisant ou totalitaire, hein, ce qu'on veut. Hein. Mais moi, ce que je trouve plus effrayant que la peur, c'est certains politiques qui prétendaient ou qui avaient comme phrase essentielle à dire « n'ayez pas peur ». Bah, si, il faut avoir peur.
Quand on nous le dit, il est le temps d'avoir peur, c'est ça?
Voilà, il faut avoir peur parce que c'est aussi ce qui permet de se comprendre et ce qui permet d'avoir les failles dans tous les systèmes totalisants, des systèmes de pensée qu'on pense, justement, qu'on justifie, qu'on se justifie à soi-même pour éviter de dire ça c'est de l'inconnaissable, c'est de l'inconceptualisable, etc.
Mais, et puis, mais au contraire, est-ce que les systèmes qui nous disent beaucoup « ayez peur » tout le temps, qui nous mettent dans une situation de nous pousser vers le sécuritaire parce qu'il faut avoir peur de tout, est-ce que ça aussi c'est pas à l'inverse?
C'est l'inverse, c'est l'opposé total. C'est le même système, c'est un système totalisant aussi. Une peur permanente, ça provoque aussi une absence de questionnement aussi sur ce que l'on est, quoi. Faire vivre dans une peur permanente, pour moi c'est tout aussi totalisant ou en tout cas totalitaire que dire n'ayez pas peur. Et c'est une autre forme d'intégrisme pour moi. C'est ça.
Anna, vous avez peur tout le temps ou vous n'avez pas peur?
Я очень редко боюсь.
J'ai peur très rarement.
Lucky you. Chanceuse.
Но да, но возвращаясь вот к вопросу, который вы задали про судьбу, это действительно, ну, то есть судьба, она, наверное, есть. Но другое дело, что узнать, какая судьба была у человека, да и у любого живого существа, все-таки можно уже, когда он умер. Вот тогда можно у его там гроба понять, что за линия была вот этой его жизни, какую судьбу он прожил.
Et je voulais juste revenir à cette question du prédestiné. Est-ce qu'une personne a un destin? Je crois qu'effectivement, le destin, ça existe, mais connaître le destin d'un homme ou d'un animal, on ne peut le connaître qu'une fois qu'il est mort. C'est là qu'on peut tracer donc, la vie qu'il a vécue.
А попытка сделать себе такую какую-то колею и верить, что вот у меня такая судьба, а не сякая, это, конечно, такое, ну, вполне понятное, объяснимое, но наивное такое примитивное мышление. Ну, так как у представителей древнего племени, которые считают, что если он будет каждый день приходить вот именно к этому дереву и именно три раза приседать и два раза там хлопать в ладоши, то с ним не случатся какие-то страшные вещи, у него будет хорошая судьба.
Mais par contre, se frayer une sorte de chemin et s'efforcer à suivre son chemin, enfin ce chemin en disant que c'est ton destin, c'est bien sûr une conception assez naïve, assez primitive, comme celle d'un représentant d'une ancienne tribu qui croyait que s'il venait tous les jours à cet arbre précis et qu'il faisait donc trois squats et qu'il frappait donc avec sa main deux fois, rien de mauvais ne lui arriverait pas.
Но я не могу не сказать, что я не согласна с Патриком по поводу сериала Breaking Bad.
Mais alors je ne peux pas ne pas dire que je ne suis pas d'accord avec Patrick concernant la série Breaking Bad.
Потому что изначально то, что случается с главным героем, это как раз абсолютно нелогично и несправедливо, потому что это маленький, хороший, вежливый, интеллигентный человек, который вдруг узнает, что вот у него рак, и он сейчас умрет. И именно после этого абсолютно как бы непредсказуемого и необъяснимого такого вот события, которого он не заслужил, из него и вылезают все те бесы, которые в дальнейшем как бы им начинают манипулировать. Просто стартовое событие, я сама сценарист, и я это хорошо вижу, стартовое событие, оно как раз из категории абсолютно незаслуженных, несправедливых, нелогичных.
Parce qu'au fait, cette personne, on peut dire que la chose qui lui arrive au début de la série, la chose qui motive toutes ses actions, c'est justement donc une chose absolument injuste et inattendue qui lui arrive. C'est un petit homme intelligent, tout à fait gentil, qui apprend qu'il est souffrant d'un cancer, et tous les démons qui sortent de lui et qui commencent à le manipuler, ils naissent justement de cet événement tout à fait injuste. Justifié et inexplicable. Moi, j'écris des scénarios moi-même et je tiens à affirmer que quand même l'événement du début, il est injustifié.
Bon, on est arrivé à un accord sur Breaking Bad, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Bon, on arrive à la fin de cette table ronde. Merci à vous, merci d'avoir accepté de jouer le jeu avec moi qui n'avais pas beaucoup de connaissances sur vos livres. En tout cas, j'espère que pour vous tous, ça vous a donné envie d'aller voir les auteurs après dans la bulle du livre, de vous faire dédicacer leurs livres et d'espérer qu'ils vous disent pas trop d'horreur. Et puis, merci à vous d'aimer nous faire peur, vous faire peur et d'écrire des romans qui parlent de tout ça. Merci. Спасибо.